dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Elles étaient bien là, tapis dans l'ombre de notre culture artistique. Cette fois, les voici en pleine lumière. Toutes ces figures africaines ou antillaises qui ont inspiré l'iconographie française. C'est l'histoire du modèle noir que nous raconte l'exposition dont nous allons parler aujourd'hui. Qui sont ces modèles qui ont inspiré les peintres? Comment les artistes les ont-ils représentés? Et à travers eux, que nous disent-ils? Quelle image nous renvoient-ils des soubresauts de l'histoire politique, de l'histoire sociale, de l'histoire de l'art, de l'évolution de la vie quotidienne et des mentalités depuis la Révolution française? Vous en saurez plus dans un instant grâce à nos deux invités, deux des commissaires de cet événement, la directrice du musée de l'Orangerie, Cécile Debray, et Isolde Pludermacher, conservatrice en chef peinture au musée d'Orsay. Elles vont nous parler et mettre en perspective quelques-unes des quelques 300 œuvres exposées, des peintures, des photos, des gravures, des sculptures, des affiches, d'autres documents, y compris des œuvres d'artistes contemporains. L'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse se tient donc à Paris au musée d'Orsay jusqu'au 21 juillet et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. L'exposition a lieu effectivement à Paris, hein, Cécile Debray, mais dans l'aventure de cette exposition, il y a un avant et un après. En fait, Paris, c'est la deuxième étape.
Oui, exactement. C'est la deuxième étape d'une exposition qui a été imaginée, conçue par Denise Merel, qui est donc une historienne d'art américaine l'Université de Columbia, et qui, à partir de ses travaux de thèse, a proposé un projet autour de la question du modèle noir de Manet à Matisse. Et donc à Paris, on reprend une partie de ce projet pour l'élargir et proposer un parcours peut-être plus vaste et plus contextualisé sur cette question peu connue en France, en montrant donc depuis la Révolution française avec les premières abolitions, la première abolition de l'esclavage, jusque le Matisse des années 40, cette question du modèle noir.
Mais alors justement, du point de vue temporel, Isolde Pludermacher, on est là beaucoup plus large finalement dans cette période que la période habituellement couverte par le musée d'Orsay.
Oui, en effet, c'est le projet qui a appelé cet élargissement, puisqu'il s'agit de la première grande exposition dans un musée des Beaux-Arts en France consacrée à ce sujet. Il apparaissait nécessaire, du point de vue de la contextualisation, de l'inscrire dans un très large 19e siècle et de voir toutes les résurgences, notamment d'une peinture matricielle qui est l'Olympia de Manet, qui scande le parcours tout au long de l'exposition.
Alors, ce qui est passionnant dans cette exposition, c'est que on joue vraiment sur trois tableaux en même temps, sans mauvais jeu de mots. Il y a l'histoire de l'art, il y a l'histoire politique et puis il y a l'histoire sociale. Est-ce que l'on peut dire que l'art, à travers le modèle noir, renvoie un juste reflet de ce que fut la place des Noirs en France depuis la Révolution française, Isolde Pludermacher?
Ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue historique, si l'on fait des recherches par exemple sur la présence des Noirs en France au XIXe siècle, les archives sont bien souvent muettes, dans la mesure où depuis l'instauration de la République en France, il n'existe pas de recensement basé sur des critères ethniques ou raciaux. Et finalement, les œuvres d'art, les représentations artistiques sont bien souvent le seul moyen de rendre visible cette présence et ont valeur de témoignages historiques incomparables.
Mais on ne sait pas si ces œuvres d'art sont représentatives des différentes sociétés telles qu'elles ont pu évoluer.
Elles le sont dans une certaine mesure et nos recherches portant sur l'histoire, sur les documents, sur également les publications et la littérature nous permettent de tempérer justement, de mieux orienter, de mieux resituer le regard de ces artistes.
Alors l'exposition est découpée en trois grandes époques. La première commence en 1794, date du premier décret d'abolition de l'esclavage en France, décret voté par la Convention qui accorde la pleine citoyenneté française aux esclaves affranchis. On est dans la foulée de la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791 avec Toussaint Louverture, que l'on croise d'ailleurs dans l'exposition. 1794 et la Révolution française, il y a clairement une rupture là, Cécile Debray?
Oui, la rupture, elle est évidente du point de vue historique, rupture, mais qui ne sera pas définitive, puisqu'il faudra reprendre le combat, puisque en fait Bonaparte va rétablir l'esclavage.
1802.
La seconde et définitive abolition de l'esclavage aura lieu en 1848.
Mais donc là, en 1794, est-ce que le regard sur le noir change politiquement, oui, on vient de le dire, mais est-ce qu'il change aussi picturalement parlant ?
Alors, le changement, il est là, il est évidemment lié à l'histoire, mais comme dans toute l'histoire de l'art, cela se fait avec des résurgences et des continuités. Donc, on a pu essayer de montrer comment la représentation ou certains de ces portraits sont aussi redevables d'une tradition du portrait où la présence des modèles noirs est déjà présente au XVIIIe siècle. À travers les œuvres que nous montrons.
Alors, par exemple, il y a Madeleine, c'est le portrait qui ouvre hein, le parcours Isolde Plédermacher. Madeleine, une négresse au sein nu, peinte par Marie-Guillemine Benoît. En quoi ce portrait méritait-il l'ouverture ainsi de l'exposition ? Parce que c'est vraiment le premier visage que l'on voit en entrant.
Oui, d'abord parce que c'est un portrait absolument magnifique et que nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce prêt du emblématique du musée du Louvre. Alors à plusieurs titres, d'abord par sa datation 1800, et il s'agit de l'une des premières œuvres montrées au salon, donc exposée au public, qui portait dans son titre le terme même de portrait et qui donnait donc l'idée d'un individu et non pas d'un genre global, enfin lié à des stéréotypes. Et pourtant, le titre en lui-même était assez ambivalent puisque le véritable titre est « Portrait d'une négresse ». Donc, il y a une sorte d'oxymore dans ce titre. Et nos recherches ont consisté notamment à redonner des noms, une identité propre à chacun des modèles. Et je voudrais préciser que le cartel de ce tableau porte divers titres. Il porte le titre ancien et historique, celui de Marie-Guillemine Benoît, portrait d'une négresse. Il porte également le titre qui avait été donné par le musée du Louvre il y a quelques années déjà, portrait d'une femme noire. Il porte également un nouveau titre, celui que nous avons donné à l'occasion de cette exposition, qui est portrait de Madeleine, puisque nous savons maintenant que le modèle s'appelait Madeleine. Et ça, c'est un des grands chantiers de l'exposition, que de redonner un titre à certaines œuvres.
Alors, il y a aussi Jean-Baptiste Bellet, hein, que l'on découvre peint par Anouilh Giraudet. Jean-Baptiste Bellet, c'est un député de Saint-Domingue, donc on voit effectivement toute la force symbolique qu'il peut y avoir à travers ce portrait. Saint-Domingue, où les troupes françaises de Napoléon vont débarquer hein, pour rétablir l'esclavage, comme vous le disiez tout à l'heure, Cécile Debray. Les habitants résistent et finalement, l'indépendance de la République d'Haïti est proclamée en 1804 et certains artistes se battent hein, pendant cette période napoléonienne en faveur de l'abolition de l'esclavage. Et c'est le cas d'un peintre extrêmement célèbre pour un tableau, extrêmement célèbre pour le Radeau de la Méduse. Il s'agit bien sûr de Théodore Géricault. Il est vraiment à la pointe du combat pour l'abolition.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que finalement, chez ce grand peintre, on s'aperçoit que la présence des modèles noirs est réelle et très sensible. Donc, dans notre exposition, en fait, il est représenté par plusieurs portraits de modèles noirs, notamment le fameux modèle Joseph, dont on ne sait si c'est un seul modèle ou si c'est une dynastie de modèles ou encore une typologie de modèles, puisque on retrouve le nom de Joseph dans des toiles plusieurs décennies après.
Alors j'ai lu qu'il était acrobate, qu'il avait été embauché par l'école des Beaux-Arts pour devenir moderne. C'est pas si certain que ça alors.
Si. C'est certain. La seule chose, c'est que le nom de Joseph réapparaît réapparaît plus tard dans d'autres tableaux et donc on s'interroge juste sur le fait que est-ce que c'est toujours le même modèle Joseph ou est-ce encore un autre. Donc pour revenir à Géricault, Géricault a été sensible en tout cas à la cause de l'abolition de l'esclavage au point de lorsqu'il entreprend cette grande peinture l'épisode malheureux de ce naufrage d'une frégate conduite par un immigré incompétent, il va au lieu de représenter un seul personnage noir comme visiblement ce fut le cas, il installe trois personnages noirs dans son tableau. Et c'est donc effectivement vraisemblablement un artiste, enfin plus que vraisemblablement un artiste qui a par sa peinture exprimé son soutien à la cause abolitionniste.
Et quand il y a parmi les figures de l'esclavage que vous évoquez, parmi les représentations de l'esclavage que vous évoquez plus précisément, Isole Pleudamara, il y a aussi un tableau de Marcel-Antoine Verdier. Alors là on est en 1843, donc on avance un tout petit peu dans l'histoire. Il est intitulé Le châtiment des quatre piquets dans les colonies. Et c'est une toile très très étonnante parce que, avec le regard d'aujourd'hui, puisqu'évidemment on le voit avec les yeux d'aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que cette scène où on voit un esclave maltraité, bah, elle fait vraiment partie de la vie quotidienne, quoi. Ça fait partie du paysage d'une certaine façon.
Alors je ne pense pas, je pense que c'était tout aussi violent pour l'époque, et d'ailleurs Verdier, qui était un élève d'Ingres, a peint cette toile pour être présentée au salon, pour être visible, c'est un grand format d'ailleurs, et elle a été refusée au salon, et il a pu l'exposer dans un lieu alternatif qui était le bazar Bonne Nouvelle, et justement on a pu faire des recherches sur ce tableau et voir notamment un article de l'Illustration de 1843 qui explique que si le tableau a été refusé, c'était précisément parce qu'il mettait le public de l'époque face à une violence qui était insoutenable. Et donc l'artiste a fait ce choix délibéré de représenter quelque chose d'insoutenable pour dénoncer les châtiments corporels infligés dans les colonies.
Et sur la toile, les autres personnages entourent la scène et continuent de vivre comme si cette scène n'existait pas.
C'est précisément ce qui est...
C'est la différence en fait qu'il dénonce. Dénoncé à travers sa toile.
Particulièrement violent, on voit même à gauche de la toile un détail terrible, on voit un petit enfant noir qui se détourne de cette scène et qui joue avec des chaînes, donc voilà. Et je précise donc que on parlait de Joseph à l'instant, et Joseph, qui avait été en effet repéré par Géricault dans une troupe d'acrobates, on a découvert à l'occasion de cette exposition qu'il avait, il était très célèbre comme modèle de Géricault, mais il a aussi été employé après la mort de Géricault à l'école des Beaux-Arts. Et ça, c'est très important parce que il n'y avait guère que trois modèles masculins, puisqu'il n'y avait que des hommes à l'époque qui posaient à l'école des Beaux-Arts, qui étaient salariés. Et Joseph faisait partie de ces trois hommes. Et je vous en parle maintenant parce que cela signifie que tous les professeurs de l'école des Beaux-Arts et tous les élèves des années 1830 qui ont travaillé avec Joseph, et parmi ceux-ci, Verdier. Et donc peut-être que le personnage allongé face au sol dans ce grand tableau a été posé par Joseph. C'est l'une des hypothèses que l'on peut formuler.
Arrive 1848, l'autre abolition, et vous la traitez aussi cette date à travers l'œuvre de François-Auguste Biard. C'est, on va dire, le peintre qui va célébrer cette date-ci, Isole Pleudamara.
Alors, il n'est pas le seul. On présente, c'est vrai que la date de 1848 avec la seconde abolition, c'est un moment qui a généré des représentations artistiques fortes. Alors, dans le cas de Biard, c'est un grand tableau démonstratif dans le registre de la peinture d'histoire. On a également des allégories qui sont évoquées par des œuvres de Limeline et de Gosse. Le jeune noir à l'épée de Puy de Chavannes, qui date de 1850, peut aussi être lu comme un tableau allégorique. Mais dans le cas de Biard, il faut signaler que ça n'est pas un unique homme. En réalité, l'artiste, dès les années 1830, avait peint des grandes scènes de très grand format qui dénonçaient la traite négrière. Et jusque dans les années 1860, il va continuer à dénoncer notamment l'esclavage dans les États du Sud, aux États-Unis.
Ouais, et c'est dans ce contexte que peu à peu le thème du métissage va s'imposer au cours de la période romantique, dans la peinture, dans la littérature aussi. Et là, on est obligé d'évoquer Cécile de Bray, une figure majeure de l'époque, une figure de la littérature française de l'époque, un certain Alexandre Dumas, que vous évoquez notamment à travers des photographies.
Oui, oui, mais je vais peut-être laisser... moi, je peux parler d'Alexandre Dumas, peut-être juste un détail, c'est que c'est à l'occasion de cette exposition, je pense que le public français, qui connaît très bien Alexandre Dumas, qui est l'auteur donc des Trois Mousquetaires, aura peut-être la surprise d'apprendre que qu'Alexandre Dumas était un homme de couleur.
Oui,
voilà.
Oui, tout le monde ne le sait pas, effectivement.
Et ça, c'est une des réflexions que j'ai entendues beaucoup lors de l'inauguration de l'exposition.
Alors sur les photos, Isolde Plusamareur.
Oui, alors on a des photographies magnifiques, et il en existe un certain nombre, et on a choisi parmi les plus belles, notamment celle de Gustave Le Gray, un très beau portrait d'Alexandre Dumas, une aussi très intéressante et très belle de Nadar, le photographe qui était également caricaturiste, et on a choisi de présenter à la fois la photographie et la caricature du même Alexandre Dumas, d'ailleurs père et fils, tous les deux ont été portraiturés par Nadar et caricaturés. Les caricatures de Nadar sont assez je dirais affectueuses, dans la mesure où il a caricaturé tous ses contemporains en outrant les traits, et il est intéressant de voir que le même homme est capable de faire des portraits photographiques et des caricatures. En revanche, celles de Cham sont peut-être beaucoup plus violentes et imprégnées d'un regard assez raciste, où les traits l'ascendance africaine d'Alexandre Dumas est mise en avant de manière dénigrante. Et là, nous avons choisi de montrer quelques exemples dans l'exposition à travers la figure aussi célèbre d'Alexandre Dumas, mais il existe évidemment un nombre infini de caricatures sur la population noire à cette époque-là.
Oui, alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que nous, comme je le disais tout à l'heure, on a évidemment le regard d'aujourd'hui. Comment, justement, est-ce que vous avez traité d'un bout à l'autre de l'exposition cet aspect, ce risque un peu d'anachronie, finalement, dans la façon dont chacune des œuvres pouvait être vue?
Oui, alors on a fait un grand travail sur la médiation, sur les panneaux de salle, sur les cartels, ce que j'évoquais en préambule. Je pense que ne serait-ce que la désignation d'une œuvre par son titre, c'est très important. Je vous disais qu'on avait mis en avant le nom des modèles lorsqu'il était connu, mais on a aussi choisi de rétrograder comme titre historique ancien tous les titres comportant des termes marqués, racisés, tels que négresse, mulâtre, qu'on n'adopterait plus aujourd'hui. Et voilà, en ce sens-là, on a inséré bien sûr une perspective actuelle, tout en recontextualisant le moment de la production de ces œuvres.
Que j'aime avoir, cher indolent, de ton corps si beau, comme une étoile vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille un ciel lointain, tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse. caresse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Le serpent qui danse, Léo Ferré qui chante ce poème des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, poème inspiré par une des muses du poète, Jeanne Duval, qui est une des grandes figures du métissage. D'ailleurs, Isole Pludemareur, elle faisait partie de ces modèles noirs installés à Paris et qui servaient justement de modèles dans les ateliers d'artistes.
Alors, on connaît assez mal la vie de Jeanne Duval, hormis le fait qu'elle a entretenu une longue et compliquée relation avec Charles Baudelaire, à qui elle a inspiré une série de poèmes des Fleurs du Mal. Et on sait cependant qu'elle était comédienne, elle jouait dans des théâtres à Paris, et Nadar et d'autres ont fait une description physique assez précise. Et nous avons la chance de présenter dans l'exposition un tableau de Manet qui représente Jeanne Duval, malade sans doute après une attaque de paralysie où elle avait été en maison de santé, en maison de repos, et aussi de magnifiques dessins de Baudelaire qui représentent sa muse.
Et puis Jeanne Duval a aussi inspiré des années après Matisse aussi, Cécile Debray.
Oui, Matisse en fait va illustrer les Fleurs du Mal de Baudelaire à un moment de sa carrière où il est très intéressé par la question du jazz et également par un certain nombre de modèles qu'il choisit et qui sont tous des modèles noirs. Et donc il y a une forme de coïncidence effectivement entre ces visages, les visages de Carmen, donc cette Martiniquaise qui posait pour Matisse, et le fantôme de Jeanne Duval dans ce recueil illustré par Matisse.
Alors ces modèles noirs, Isole Pludemareur, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, en tout cas à l'époque de Géricault, c'était aussi effectivement le cas.
Alors, pour être très précis, je parlais vraiment de l'école des Beaux-Arts qui, jusqu'en 1863, n'employait que des hommes. Mais en réalité, non, pour les artistes employaient aussi bien des modèles féminins que masculins dans leur atelier. Ce qui est intéressant et ce qui est propre à tous les modèles, quelle que soit leur couleur de peau, c'est que être modèle était rarement une activité professionnelle à temps plein. Joseph était un exemple à part en ce sens, parce qu'il a vraiment été modèle toute sa vie durant. Mais la plupart des modèles avaient d'autres professions.
Et est-ce qu'on peut dresser une typologie justement du modèle noir à travers les années ? Est-ce que ils étaient systématiquement utilisés dans tel ou tel type de scène, en particulier, je ne sais pas, la domesticité par exemple ?
On peut dire qu'il y a une sorte de d'association indéniable entre les modèles noirs ou métis et les vocations d'un Orient, d'un ailleurs lointain, et bien souvent une hypersexualisation des corps noirs féminins et masculins aussi, puisqu'il y avait des théories pseudo-scientifiques à l'époque qui, par exemple, évoquaient le fait que les organes sexuels des noirs étaient particulièrement développés. Sinon, ce qui nous a intéressé, c'est de montrer que la présence des modèles noirs était visible dans des œuvres d'art qui correspondaient à des genres très différents. Il peut s'agir de portraits, de scènes de genre, de scènes historiques, mais aussi d'études. Et nous avons présenté dans une salle toute une série d'études d'après des modèles féminin et masculin, anonyme, mais qui montre une relation très, très singulière, très individualisée entre un artiste et un modèle.
Alors, il y a une œuvre qui se trouve vraiment au cœur de l'exposition, vous en avez déjà dit un mot tout à l'heure, c'est Olympia de Manet, sur laquelle donc on voit la fameuse Olympia couchée sur son lit, et puis derrière, une figure de domestique noire. C'est une œuvre qui va faire scandale en 1865, hein, quand elle est exposée pour la première fois au salon de 1865, mais le scandale, il concerne pas tellement la présence de cette domestique noire.
Oui, Cécile rappelait au départ que tout le projet de cette exposition est né aux États-Unis d'un travail de recherche de Denise Merel, qui en fait a été frappée par l'absence de commentaires concernant quand même une des deux seules figures du tableau, à savoir la figure de cette servante. Et en effet, tout le scandale s'est concentré sur la figure de la femme blanche posée par Victorine Meurent, en ce sens qu'elle incarnait une réalité très contemporaine qui était celle de la courtisanerie dans le Paris du Second Empire.
Donc de la prostitution.
De la prostitution de haut vol. Et d'ailleurs, la servante, si elle n'a pas été tant commentée, a tout à fait son rôle dans la scène, puisque à l'époque, avoir à son service un ou une domestique noire ou une nourrice noire était un signe extérieur de richesse et était réservé plutôt à l'aristocratie ou à la haute bourgeoisie. Ce qui signifie que cette courtisane contemporaine se paye le luxe d'avoir à son service une domestique noire.
Alors que sait-on du modèle qui a servi justement le peintre comme modèle justement de cette domestique? Elle s'appelle Laure, c'est bien ça?
Oui, alors on savait déjà qu'elle s'appelait Laure parce que le biographe de Manet, Tabaran, en 1947, avait transcrit un carnet de l'artiste dans lequel il était indiqué Laure, très belle négresse, 11 rue Vintimille. Et comme le carnet date à peu près de la même année que Olympia, on s'est dit qu'il était très vraisemblable que ce soit le prénom de ce modèle. Et nous exposons pour la première fois ce carnet que l'on pensait être perdu, juste à côté d'Olympia. Donc, et on sait finalement très peu de choses d'elle, si ce n'est qu'elle a peut-être posé pour un autre tableau que nous montrons dans l'exposition, qui représente une nourrice noire et une nourrice blanche. Donc peut-être était-elle nourrice. Et nous avons aussi fait des recherches dans les archives, au cadastre, à la ville de Paris, qui indique la part de loyer qu'elle payait au 11 rue Vintimille, puisque nous avons retrouvé l'or dans ce cadastre, et aussi quel était son environnement social, qui habitait avec elle dans le même immeuble, à savoir un milieu de commerçants modestes et d'ouvriers.
Et vous avez aussi organisé en parallèle toute une section de l'exposition autour de la figure d'Olympia, Cécile Debré, qui a été reprise et déclinée par bien d'autres artistes, y compris d'ailleurs des artistes très récents, voire même contemporains.
Oui, parce que Olympia, et là c'est mieux connu, est en fait un tableau qui va devenir absolument emblématique pour la nouvelle génération de peintres, ce qu'on appelait la peinture nouvelle, avec les futurs impressionnistes qui vont se regrouper autour de ce tableau comme une forme presque d'étendard. Et ce tableau qui incarne la modernité va rester une sorte de pierre angulaire de toute l'histoire moderne de la peinture. Et donc on a d'ailleurs le bonheur de pouvoir réunir les plus prestigieuses relectures ou copies de ce tableau, puisque dans la salle qu'a accroché Isolde, il y a les variations de Cézanne, qui sont des variations évidemment assez ironiques et en même temps très, très symptomatiques de son rattachement à Manet. Et on a un peu plus loin la copie que fera Gauguin. À peine l'œuvre entre dans les collections nationales au musée du Luxembourg grâce à la souscription pour laquelle s'est battu Monet. Gauguin donc va peindre ce tableau, et on sait également que lorsqu'il part à Tahiti, il emporte avec lui une reproduction photographique de l'œuvre, comme une sorte de talisman pour lui, au point que la jeune Tahitienne qui était dans sa case, voyant cette reproduction, lui demande si c'est sa femme, et il est absolument ravi de l'idée de pouvoir être marié à l'Olympia.
Oui. Et la figure d'Olympia continue effectivement d'inspirer les peintres aujourd'hui?
Voilà, et on a organiser une sorte de conclusion aux propos autour du motif de l'Olympia, puisque nous montrons notamment une œuvre de Larry Rivers, qui est un peintre juif new-yorkais, musicien fréquentant Harlem, à qui on passe commande d'un grand cycle d'œuvres sur l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et très curieusement, ou de manière très symptomatique, il va choisir l'Olympia pour décliner de manière assez pop une sorte de jeu sur la bichromie noir-blanc de l'Olympia. Donc il transpose de manière presque graphique. On aura également une œuvre d'Aimé Pané, donc un jeune artiste ou un artiste issu de Kinshasa, qui lui propose une relecture beaucoup plus âpre de l'Olympia.
Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga.
Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro.
Tu cherches un nègre ?
Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, n'importe quoi. Tu crées pas de situation.
Non, 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 là, tu la prennes cette baffe, là, comme ça, là.
Hop là ! Je suis pas convaincu.
Tu me laisses une chance.
C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance.
Qu'un clown blanc te fait confiance.
Le clown chocolat, incarné au cinéma par Omar Sy aux côtés de James Thierry dans le film de Roche Dizem, sorti en 2016. Une des grandes figures qu'on retrouve dans cette exposition sur le modèle noir actuellement au musée d'Orsay. Cécile Debré, Chocolat fait d'ailleurs partie des nombreux artistes noirs qui sont apparus sur les scènes de cirque, sur les scènes de spectacle aussi. On en croise beaucoup sur des tableaux, mais aussi sur des affiches.
Oui, oui, alors c'est une grande section que nous avons souhaité pour faire la transition vers le 20e siècle, après avoir montré, je dirais, comment, du point de vue sociologique, beaucoup de femmes noires étaient soit nourrices, soit prostituées. Il y a évidemment un domaine dans lequel cette communauté noire est assez représentée, c'est le domaine du spectacle, du show business, on dirait aujourd'hui, dans lequel, à la fin du 19e siècle, on retrouve quelques personnages qui sont sortis effectivement récemment de l'oubli, ces chocolats, puisque il y a eu beaucoup de réinterprétations théâtrales et plus récemment ce film. On montre dans l'exposition une série d'affiches de cirque qui montre ce clown chocolat et évidemment l'acrobate Lala qui a été immortalisée par Degas, dont on présente la magnifique peinture et également le pastel à côté de la peinture.
Ouais, il y a le théâtre, il y a le cirque, il y a la musique aussi avec Maria Martinez, photographiée par Nadar. Et puis il y a aussi la découverte par les artistes européens comme Matisse, comme Picasso, comme Derain, de l'art africain, hein, de l'art statuaire en particulier africain. Dans quelle mesure est-ce que cet art africain va inspirer ces artistes-là, Cécile Debré?
Oui, alors là, vous avez remarqué qu'on changeait de siècle. On change de contexte aussi, puisqu'en fait, la question du modèle noir et Isolde l'a bien explicité par rapport au contexte de l'école des Beaux-Arts. Au XXe siècle, je dirais, le rapport des artistes au modèle et au portrait a tendance à muter vers une interrogation sur le mimétisme et sur la question du portrait. Et cette interrogation sur les formes de la, je dirais, de la représentation et les formes du portrait passe notamment par le biais de cet intérêt pour les arts extra-occidentaux. Et l'on sait par exemple que dès 1906, Derain, Matisse, Picasso vont explorer le musée du Trocadéro. Et évidemment, l'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est celui celui des Demoiselles d'Avignon, où Picasso remplace l'une des têtes de ses figures par une figuration de masque qui semble être un masque africain. Il y a beaucoup de débats autour de cette question. Mais ce qui nous importe pour notre propos, c'est que ce rapport à l'art africain, en fait, est symptomatique surtout d'une volonté de renouveler l'art, de retrouver une nouvelle, de nouvelles écritures, de nouvelles manières de peindre, en se tournant vers un ailleurs, vers des formes, je dirais, plus primitives, entre guillemets, dont Gauguin est sans doute l'un des premiers à faire cette démarche, puisque lorsqu'il part à Tahiti, à travers cette quête, Picasso, Matisse vont observer avec beaucoup d'attention l'œuvre de Gauguin et commencer à travailler sur cet ailleurs. Donc cet ailleurs, il est d'abord incarné, je dirais, par ses fétiches africains, et il va, pour la génération suivante, c'est-à-dire les surréalistes, prendre une dimension beaucoup plus politique, qui va rencontrer la manière dont cette communauté noire va affirmer une certaine forme de, je dirais, de volonté d'affirmation de la négritude d'une manière positive et politique.
La guerre de 14, avec l'implication des tirailleurs sénégalais dans le conflit, elle va aussi changer quelque chose dans la représentation de l'image des Noirs.
Ça joue un rôle indéniable, puisque c'est même, d'ailleurs, très souvent, on parle d'une entrée dans le XXe siècle à partir de ce premier conflit mondial. Effectivement, lorsqu'arrivent sur le front les tirailleurs sénégalais, et puis en 1917 les GIs noirs américains, cette arrivée donc de soldats noirs va être pour beaucoup de bidas français leur première expérience de cette altérité, et surtout ça va marquer, je dirais, une présence beaucoup plus importante de populations noires à Paris durant l'entre-deux-guerres, Paris étant une ville cosmopolite largement plus tolérante, plus libérale que le régime ségrégationniste américain, on verra effectivement beaucoup de ces artistes noirs musiciens notamment s'installer à Paris, Paris devenant assez rapidement une capitale du jazz.
Direz des nouvelles sur RFI.
Quelques notes de Charleston pour saluer l'avènement de celle qui est sans doute une des plus grandes icônes noires du XXe siècle. J'ai nommé évidemment Joséphine Baker, dont la renommée a été renforcée, mais va bien au-delà hein, quand même de sa fameuse ceinture de banane, Cécile Debray.
Oui, alors Joséphine Baker, c'est vraiment un cas absolument exemplaire de cette ambivalence, je dirais, entre une danseuse qui arrive des États-Unis, qui va connaître un succès immense, hein, notamment à travers la revue Nègre en 1925 au Théâtre des Champs-Élysées. Et si elle reconduit une sorte de stéréotype du corps noir érotéisé avec sa ceinture de banane qui renvoie à une sorte de nature primitive, en fait elle contribue largement d'abord à l'affirmation d'un style noir, puisque on parle même de négrophilie pour parler des années 20 à Paris, et surtout c'est une femme qui a eu un destin tout à fait remarquable, qui a joué un vrai rôle politique hein, sur la condition des noirs, puisqu'elle a été une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle est allée également aux États-Unis. Elle est retournée aux États-Unis pour donner des discours dans les réunions autour de la lutte pour les droits civiques à Harlem et ailleurs auprès de Martin Luther King.
Et puis Matisse lui aussi va aller aux États-Unis, et plus précisément dans ce quartier de Harlem qui est aussi l'une des capitales du jazz de l'époque. Qu'a-t-il retiré de son passage dans ce quartier de New York? Matisse.
Alors, en fait, quand Matisse part à Harlem, c'est donc en 1930, c'est déjà un amateur de jazz. Hein, et donc, quand il arrive, effectivement, il veut absolument voir les rues de Harlem, écouter les music halls de Harlem, écouter la musique de Harlem. Et très, très curieusement, donc c'est sur la route de Tahiti, hein, puisque New York n'est qu'une escale dans son voyage. Et il dira plus tard que les fruits portés par cette expérience de New York et de Tahiti ne seront visibles que 10 ans après dans son œuvre. Et c'est pour ça que dans l'exposition, nous montrons un ensemble des dernières œuvres de Matisse, quelques peintures absolument admirables des années 40, où l'on s'aperçoit que Matisse, parmi ses modèles, a plusieurs modèles de couleurs, et qu'à partir de ces femmes qui posent chez lui, il va réaliser un travail de dessin quasi obsessionnel autour de ces visages qu'il va utiliser effectivement pour illustrer les fleurs du mal, mais également un ouvrage de poésie antillaise où il utilise encore ces visages presque atemporels et très matissiens. Et dans son travail, son tout dernier travail de papier gouaché découpé, il va montrer à plusieurs reprises, et nous montrons dans l'exposition une grande danseuse créole, ce thème de la danse. Là, ce papier gouaché découpé est inspiré de Catherine Dunham, qui a été la créatrice des ballets Caraïbes dans les années, fin des années 40, début des années 50. Et c'est en quelque sorte pour Matisse une manière de revenir vers cette sorte de fascination qu'il avait pour la danse populaire, la musique populaire, puisque il faut se rappeler que les premières rondes de Matisse, les danses de Matisse, ont été inspirées par le bal du Moulin de la Galette. Et on retrouve en fait ce qu'est la musique populaire dans ces années-là, les années 40, 50, c'est évidemment le jazz.
Et puisqu'on évoquait les Caraïbes, Isole Plumet-Marer, c'est la troisième étape hein, finalement de cette exposition, après l'étape new-yorkaise, après l'étape parisienne, c'est à Pointe-à-Pitre que cette aventure va continuer.
Oui, tout à fait. Nous nous réjouissons de ce premier partenariat avec le Memorial Act de Pointe-à-Pitre. Effectivement, l'exposition prendra une forme nouvelle. Nous travaillons beaucoup avec Jacques Martial à la redéfinition du projet.
Voilà, le président du Memorial Act de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Merci beaucoup à toutes les deux, Isole Plumet-Marer et Cécile Debray. Exposition à voir au Musée d'Orsay jusqu'au 21 juillet.
Lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision. Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a conçu mon expiation.
Prélude, justice pour Adama qui ouvre le nouvel album livre d'Abdelmalik qui est d'ailleurs à l'affiche de cette exposition au Musée d'Orsay. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Cécile Debray, Isole Plumet-Marer.
Abdelmalik qui se produira d'ailleurs les 4 et 7 avril prochains donc au Musée d'Orsay.
Les 4, 5, 6, 7 même. 4 représentations mises en scène par le chorégraphe burkinabé Sali Hassanou. Les raisons de ce choix pour Abdelmalik.
J'avais vu un de ses spectacles. Il est fabuleux, il est bouleversant. C'est un danseur, un chorégraphe incroyable. Et il y avait cette idée, ça c'est l'idée première. Et l'autre idée, c'était ce projet, c'est un long poème sur l'identité. Si je devais résumer, je dirais ça comme ça. Ce qui m'intéressait aussi, je voulais travailler évidemment sur la parole, la musique, les mots, la musique, comme d'habitude. Mais cette fois, je voulais rajouter un élément, c'était les corps, la danse. Et c'est vrai que mettre tout ça en dialogue, je trouvais ça fabuleux. Le fait que Salia, qui est burkinabé, et de le mettre en lien avec des danseurs hip-hop, certes noirs, mais français, européens. En fait, on pouvait voir comme ça sur une scène des Noirs en train de danser. Mais en fait, on a la rencontre de l'Afrique et de l'Europe. On voit sous nos yeux la complexité en mouvement. C'est-à-dire que ce qui est vu ou ce qui se voit n'est pas nécessairement ce qui est. Et je trouvais que ça faisait vraiment sens rapport à cette réflexion poétique sur l'identité.
C'est ce cœur jeté à la mer entre deux satyres qui résume la tragédie à venir. C'est Hélène avec des tresses ou une afro qui suppliante demande une trêve aux affreux. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, que son embarcation est ou non un moteur Renault.
On meurt, on pleure en bonhomme, en bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, qu'on sait tout. Comme on meurt, on pleure en bonhomme, en bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, qu'on sait tout.
Mira,
comme...
mira, 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 mira. La vida negra, 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 negra. Mira, Melilla. Mira, Lampedusa. Mira, Malta. Mira, Tarifa.
Abdal Malik, la vida negra, la vie noire, originaire du Congo par ses parents, que lui ont-ils transmis ?
Il y a la musique qui a circulé, il y a la danse qui a circulé. C'est-à-dire comment j'ai vu mes parents et ma mère surtout se mouvoir dans l'espace. C'est quelque chose d'assez important.
Sur quelle musique ?
Sur toutes les musiques. Sur d'abord, évidemment, sur Loke Jazz, sur Papa Wemba, sur Koffi Olomide, sur enfin toutes ces grandes figures, Rochereau, enfin toute cette musique-là. Mais aussi sur la chanson française, sur ma mère, elle avait un rituel. Tous les dimanches, c'était chanson française. Donc du matin au soir. On écoutait Gainsbourg, on écoutait Brel, on écoutait Julio Iglesias, on écoutait Nana Mouskouri. Il y a toujours eu de la musique chez moi. Ma mère m'a transmis ça. C'est-à-dire que quand je parle de danse, je parle aussi d'un être au monde. C'est-à-dire cette capacité à ne jamais baisser les bras. Cette capacité à non seulement accepter la situation dans laquelle on se trouve sans être dans la passivité ou dans l'acceptation, dans une forme de fatalité. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas évident finalement. Et ma mère, elle nous a transmis ça. Et je pense que ça vient directement mes racines congolaises, mes racines teke, mes racines vili du point de vue de mon père.
C'est l'amour propre qui nous rend clean, digne. On serait décédé si des volions n'avaient pas décidé.
Am I alive, am I dead, am I blue, am I red, am I a fellow man to them. Galouli, city, this is not a poetry. To be or not to be, the earth will continue to sink without me. Am I alive, am I dead, am I blue, am I red, am I a fellow man to them. Galouli, city, this is not a poetry. To be or not to be, the earth will continue to sink without me. Galouli, city, Galouli, city, Galouli. قالولي سري وانا ما عندي فين نمشي حدادة حدادة بحر القبر بلا جنازة قالولي سري علاش اخويا قلبك زينون قالولي سري علاش اخويا لوندس Am I alive am I dead am I blue am I red am I a fellow man to them قالولي سري
To be or not to be, Abdal Malik sur RFI. Alors Alain, comment le rappeur, slameur et poète français s'est-il inséré dans ce projet ?
Alors c'est l'a contacté et puis très vite lui a fait découvrir les tableaux exposés. La suite, c'est lui qui nous la raconte.
Vraiment, vraiment, je tiens à saluer le musée d'Orsay parce que je trouve qu'avoir eu envie, l'idée, enfin, et tout fait pour monter cette exposition, donc le modèle noir de Jericho Amatis, de mon point de vue, c'est pas juste important, c'est le début d'un grand mouvement de mon point de vue et c'est aussi l'institution au meilleur quand tout d'un coup elle prend conscience de ce qui se passe dans le monde, dans la société et quand l'institution devient ce que moi j'appelle une sorte d'agora, un endroit où on débat où la chose démocratique est vivante et c'est ce qui se passe avec cette exposition pour Orsay. Ça, petite parenthèse et je tombe sur ce tableau et là je me dis là on tient quelque chose. Tout d'un coup il nous montrait ça, voilà cette figure noire qui nous représente tous blanc, vert, jaune, rouge et je me suis dit ça c'est fabuleux. Et tout d'un coup, voyant ce jeune noir à l'épée, il y a une histoire qui a défilé dans ma tête. Mon poème a pris une toute autre direction et j'ai voulu raconter l'histoire de ce jeune noir à l'épée aujourd'hui au 21e siècle.
Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque, je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais?
À quoi ressemble votre épée, Abdal Malik? Ah, mon épée, c'est l'amour, vous savez. Mon épée, c'est l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, être subversif, c'est ça. C'est être capable de dire sincèrement je t'aime et d'être cohérent dans cette démarche-là.
Merci infiniment, Abdal Malik.
Merci à vous. Je luttais, je luttais.
On avait nos potes se faire fumer. On prend la paix, pas l'épée.
Le jeune noir à l'épée, titre qui donne son nom au livre-disque d'Abdelmalik, lequel sera donc en spectacle du 4 au 7 avril au Musée d'Orsay à Paris. Merci Alain, dans un instant le journal. À demain avec l'écrivain Philippe Soler, sponsor roman Le Nouveau, paru chez Gallimard. Et vous m'en direz des nouvelles.
Faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.